Bonjour, c'est Gérard Darmon, vous écoutez Pop Pop Pop, et Pop Pop Pop, c'est parti.
Popopienne, popopien et tous les autres aussi, bonjour. Pourquoi nous intéressons-nous tant à la mode alors que la mode s'intéresse si peu à nous? Voilà la question que me posait ce matin mon pompiste en remplissant le réservoir de mon scooter d'essence raisonnablement plombée, en tous les cas moins plombée qu'hier matin, quand l'inimitable Philippe de Villiers dévoila, aléa Salami, le complot ultra secret ourdi entre les nazis et la CIA au moment de la fondation de l'Europe. Et il est vrai que ce n'est pas demain que mon pompiste, vêtu de son éternelle combinaison semi-graisseuse, risque de défiler sur les convoités catwalk de la Fashion Week. Mais pour autant, la mode reste un sujet passionnant qui nous en dit au moins autant sur l'époque que l'engouement des trentenaires hipsters des centres-villes pour le quinoa sans gluten. Surtout quand c'est au travers de créateurs aussi charismatiques que feu Karl Lagerfeld et feu Alexander McQueen qui, chacun à sa manière, ont bousculé le monde déjà pourtant agité de la mode. Voilà qui explique sans doute les documentaires et autres essais à eux consacrés, au nombre desquels deux qui sortent du lot et dont nous avons choisi de vous parler aujourd'hui.
France Inter. Pop, pop, pop. Antoine de Caunes.
À mes côtés, Charline Roux. Bonjour, Charline.
Bonjour, Antoine.
Et bonjour, Laurent Alain Caron.
Bonjour, Antoine.
Alors, vous vous demandez, vous qui nous regardez sur franceinter.fr, pourquoi nous avons autant de jonquilles dans ce studio? Eh bien, tout simplement parce que pendant tout le mois de mars, l'Institut Curie lance un appel à la solidarité et à la générosité nationale pour soutenir la recherche fondamentale et lutter contre le cancer. Alors, si vous voulez faire un don, eh bien, un don de 5 euros, par exemple, il suffit de taper par SMS, de l'envoyer à l'Institut Curie, en tapant par SMS espoir au 92 002 ou rendez-vous sur le site unejonquillepourcurie.fr. Voilà, à vous de jouer. Au menu donc de Pop Pop Pop, on parle de deux icônes pop. Avec vous, Laurent Alain Caron, nous allons évoquer tout de suite Karl Lagerfeld et tout à l'heure nous parlerons d'Alexander McQueen avec les deux réalisateurs du documentaire consacré aux créateurs.
Nobody could create emotions like McQueen.
Mais avant ça, Laurent Alain Caron, ici il existe une question encore plus bitchy qu'une réplique des reines du shopping.
C'est trop moche. Et je ne vais pas lui mettre une note qui soit supérieure à zéro.
Et cette question. C'est horrible. Et cette question, c'est. Pour vous, Laurent, c'est quoi la pop culture? Alors, pour être totalement honnête, j'ai eu des réponses top modéleuses, fashionistantes, podiuminesques, automnivéreuses. Et parmi mes préférées, il y a celle de Jean-Paul Gaultier. Écoutez.
Ben, la pop culture, c'est à la limite pop, ça vient de populaire. Donc, comment est-ce que j'ai appris, moi, la pop culture? Je dirais à travers la télévision. Mm-hmm. Donc, c'est plein d'émissions, c'est à la fois, ça regroupe la musique, ça peut être la variété, tout ce qui touche les gens, en fin de compte, la pop culture.
Voilà pour Jean-Paul Gaultier, à vous de jouer, Laurent
Lescaron. C'est sympathique, merci beaucoup. C'est affreux. Non, c'est un peu la même réponse, c'est-à-dire que c'est les années 80 pour moi, c'est la télé des années 80, la pop culture. Mm-hmm. Donc, je vais vous dire un truc atroce, c'est l'Académie des Neufs. Voilà.
L'Académie des Meufs.
Des Neufs.
Ah, des Neufs.
Des Meufs aussi,
non.
Si vous voulez, mais des Neufs.
Il y avait assez peu de Meufs d'ailleurs dans l'Académie des Neufs.
Ah, qui l'a dit, l'Académie des Meufs?
Oui, Antoine, c'est ce qu'il a dit.
J'ai entendu, c'est possible. C'est très moche, ça.
Non, voilà, c'est ça.
Donc, c'est Jean-Pierre Foucault en quelque sorte.
C'est Jean-Pierre Foucault. Voilà. Jean-Pierre Foucault, c'est la pop culture.
Une certaine idée de la pop culture, voilà. Et qui se tient et qui se respecte.
Merci beaucoup.
Très bien. Alors, où en sommes-nous maintenant? Nous avons fait la question. La pop, la culture et la pop culture, on va en parler tout de suite dans ce pop spécial mode, juste après un morceau du producteur américain Toro Imoy. Ça vous va, Toro Imoy?
Je sais pas, c'est comme vous voulez, Antoine.
Ou Toro Imoy, hein. Bon, enfin, le morceau, en tous les cas, il s'appelle Ordinary Pleasure.
Maximize all the pleasure, even with all
Ordinary Pleasure, c'est un morceau signé Toro Imoy, c'est extrait de l'album Outer Peace. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de Pop Culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et aujourd'hui, eh ben on traite la mode de façon... Mais de quelle mode va-t-on faire le portrait? En tout cas, c'est un portrait, mais...
À base de pop, pop, pop,
et c'est signé Charline...
Aujourd'hui, oui, une émission consacrée à la mode. Alors vous me direz qu'à la radio, et qui plus est menée par un binôme dont l'un des deux membres semble avoir un sens de cette dernière bien particulier, c'est un peu gonflé. Et vous n'êtes pas sans savoir que pour se vêtir fashion, il ne faut pas l'être gonflé. Le 34 est de rigueur. Mais bref, le rayonnement des deux icônes dont nous allons parler aujourd'hui est tel qu'il dépasse le monde corseté, froufroutant et parfois frivole d'une industrie qui vend du rêve, ou un rein, selon les moyens qu'on a à y consacrer. Des personnalités qui, au-delà de leur art, ont fait de chacune de leurs apparitions ou défilés en événement les moindres de leurs phrases et frasques étant reprises et disséquées, le Kaiser et l'Enfant Terrible réunis dans une même émission, Karl Lagerfeld et Alexander McQueen, l'un raconté en livre par Laurent Allen Caron, l'autre en documentaire ciné par Yann Bonnot et Peter Etteguy, nos trois invités du jour.
Merci Charline. Alors, spécial mode que l'on démarre donc avec vous, Laurent Allen Caron, et on va démarrer avec votre pop list. Nous vous avons demandé de choisir un livre, un film, une musique et une série culte. Alors attention, spoiler, il y a du Karl Lagerfeld dedans. Tout pour le livre, Laurent Allen Caron, vous choisissez Mrs. Dalloway, écrit par Virginia Woolf, paru en 1925. Charline, est-il normal qu'à chaque fois qu'on me parle de Virginia Woolf, j'ai aussitôt envie d'hurler comme Elisabeth?
L'ex de Grant, c'est votre côté romantique sans aucun doute. Bien. Mrs. Dalloway, sous forme d'un grand monologue intérieur, eh ben, Virginia Woolf y raconte la journée d'une femme élégante de Londres.
Bien, Laurent Allen Caron, avant de nous expliquer pourquoi vous avez choisi ce livre, pouvez-vous nous en lire un extrait s'il vous plaît?
Mais c'est un long extrait, Antoine, que vous avez choisi.
Allez,
je vous le lis.
Allez-y.
Comme on se grise, comme on plonge. C'était ainsi, jadis, à Bourton, lorsqu'avec un petit grincement des gonds qui lui semblait encore entendre, elle ouvrait toute grande les portes-fenêtres et se plongeait dans l'air, dans le plein air. Il était frais, calme et plus tranquille encore que celui-ci, l'air de Bourton, au premier matin. Le battement d'une vague, le baiser d'une vague, pur, vif et même, elle n'avait alors que 18 ans, solennelle. Debout devant la fenêtre, ouverte, elle sentait que quelque chose de merveilleux allait venir. Elle regardait les fleurs, les arbres et la fumée jouait, et les corneilles s'élevant puis retombant. Elle restait là, elle regardait.
Bien, extrait de Mrs. Dalloway de Virginia Woolf, le livre que vous avez choisi, Laurent. Pourquoi avoir choisi celui-ci?
Parce que quand je suis déprimé, je l'ouvre et je lis la première phrase et je suis heureux.
Voilà. Ah, j'aurais dû vous donner la première phrase.
Non, mais vous l'avez, elle n'est pas là, elle est tout en haut, je crois.
Mais vous n'êtes pas déprimé en même temps?
Non, je ne suis pas déprimé.
Bon, là, ça. D'accord. C'est un livre qui vous...
C'est un livre qui me met en joie, je ne sais pas pourquoi. C'est un livre qui m'accompagne, que j'ai... Alors c'est marrant parce que Karl Lagerfeld, il avait comme ça des livres qui le suivaient tout au long de sa vie. Et moi, j'ai pas une petite bibliothèque qui me suit. Et, enfin, je n'ai pas 15 maisons non plus, hein, je n'en ai qu'une. Mais j'ai une petite bibliothèque avec les livres qui m'aident à vivre. Et Mrs. Dalloway en fait partie.
Lagerfeld achetait des tonnes de livres.
À 300 000.
Tous les samedis. Ouais. Il fréquentait la librairie Galignani, il ressortait avec des piles entières de livres d'art, de romans. Ouais. C'était un ogre.
un ogre.
En matière de consommation littéraire, en tout cas. Ouais. Laurent Alain Caron, votre film culte, c'est Chambre avec vue, réalisé par James Ivory en 1986. Charline, est-il vrai que c'est en marchant que James Ivory a eu l'idée de ce film ?
Peut-être, Antoine, peut-être. Lucy Honeychurch, Helena Bonham Carter, voyage à Florence avec une vieille cousine, Charlotte Bartlett, dame Maggie Smith. À Florence, elle tombe amoureuse d'un jeune Anglais, George Emerson, qui, comme elle, a été témoin d'un meurtre. Elle est convenable ? Lui pas. Elle rentre donc en Angleterre, où elle est demandée en mariage par un jeune snob, Cecil Vice, Daniel Day-Lewis. Elle accepte, à contre-cœur, mais George n'a pas dit son dernier mot. Et Lucy non plus, d'ailleurs.
This way, Mrs. Honeychurch. Follow me.
Do you know anything about Miss Lavish's novel? There's a scene in it. The hero and heroine make love. Do you know about it? They're on a hillside and Florence is in the distance.
Oh, dearest girl, she hasn't put that in her novel.
You love the boy body and soul as he loves you.
Of course I do. What did you all think?
Chambre avec vue de James Ivory, Laurent Alain Caron. Pourquoi cette chambre ? Pourquoi cette vue ?
Exactement. Je me suis posé la question pendant longtemps. C'est un film que je regarde tout le temps aussi, pareil, quand je suis déprémé.
Et vous êtes souvent déprimé.
Non, mais quand je suis déprimé, c'est vrai, tout le temps. C'est ça. Et je crois que c'est aussi très Karl Lagerfeld, c'est-à-dire qu'il y a un côté très corseté, et puis de l'autre côté, il y a la passion, la pulsion qui est derrière. Et je crois que c'est ça que j'aime bien dans le film. Il y a ce côté pulsionnel derrière le. Parce que ça se passe quand même en Angleterre en 1906, un truc comme ça. Oui. Donc c'est quand même le corset voilà, de l'Angleterre. Et puis de l'autre côté, la pulsion et l'amour.
Vous êtes en train de nous dire que vous avez fait des choix un peu en pensant à Karl Lagerfeld.
Des choix.
Vos choix de populiste.
Exactement.
Vos choix de livre.
Non. En fait, en réfléchissant aux raisons qui m'ont amené à choisir ma populiste, je fais des liens, des ponts, en me disant c'est vrai que finalement, il y a des liens avec Lagerfeld.
Très bien. Alors, on va passer à votre série culte. Et cette série, c'est Californication, série créée par Tom Capinos, diffusée entre 2007 et 2014. Charline, vous qui fûtes érotomane dans vos folles années, rappelez-nous de quoi parlait Californication.
De cul. Et d'alcool, et de drogue aussi, le tout consommé en grande quantité par Hank Moody, David Duchovny, le romancier new-yorkais héros de cette série.
Mia.
Nice to meet you, Mia.
So, you're a famous writer, huh?
More like a one-hit wonder.
Well, now I'm definitely not going to sleep with you.
Why is there a naked lady in your bedroom? There's no hair on her vagina. Do you think she's okay?
I'll check.
Heureusement que c'est en anglais, les enfants ne comprennent pas. Pourquoi elle vous plaît tellement cette série-là ?
J'aime bien le personnage, Hank. C'est un personnage littéraire aussi, c'est Hank Moody, ça vient de Bukowski. C'est Bukowski l'inspiration, je crois. Et puis voilà, il est complètement destroy et j'aime bien ça.
Vous
et
y retrouvez.
En même temps, rock'n'roll un petit peu, ouais.
C'est un peu vous.
De temps en temps. Parfois, en fait.
Il est déprimé.
Un petit peu déprimé. Et il lit Mrs. Dalloway et il regarde Chambre avec vue.
Bien, terminons cette pop-list avec la chanson Laurent Alain Caron. Cette chanson, c'est celle-ci.
Et plus tu tout vois moi, et plus je m'aperçois que lentement je m'ouvre. Et plus je m'ouvre à toi, et plus je m'aperçois que lentement tu t'ouvres.
Ouverture d'Étienne Dao, sorti en 2000 sur l'album Corps et âme. Pourquoi ce morceau de Dao, Laurent, plutôt que sa reprise de La danse des canards, par exemple ?
Exactement, moi je me suis posé la question, je sais pas. Non mais j'adore cette chanson, et c'est l'été sans fin, c'est l'idée que ça s'arrête jamais, que le bonheur s'arrête pas. Et puis, alors là pareil, c'est dingue, c'est que c'est une Dao souvent c'est des chansons joyeuse et avec un fond très sombre. Et là, j'ai l'impression que c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose quand même de sombre dans la musique et des paroles très joyeuses. Enfin, c'est ce mix toujours entre un côté qui est assez différent de la réalité.
Bien. Oui, qu'est-ce qu'il y a ?
Je suis en train d'essayer d'imaginer Dao qui chante La danse des canards. Voilà, c'est tout, laissez-moi seul.
Alors, je résume. Virginia Woolf, Chambre avec vue, Californication et Dao. Je mets tout ça dans mon mixeur de pop culture. Et ça nous donne ça.
This way, Mrs. Honeychurch. Follow me.
Et plus tu tout vois moi, et plus je m'aperçois que lentement je m'ouvre.
Now I'm definitely not going to sleep with you.
Do you know about it? Why is there a naked lady in your bedroom?
Debout devant la fenêtre, ouverte, elle sentait que quelque chose de merveilleux allait venir.
There's no hair on her vagina. Do you think she's okay?
Pas une coïncidence.
I'll check.
Vous vous y retrouvez, Laurent ?
C'est beau ce que vous avez fait. Bon. Je m'y retrouve complètement.
Et c'est plus rapide à réécouter en cas de déprime.
Et c'est ça, je vais le garder.
Alors j'avais spoilé en début de séquence en disant qu'il y aurait du Karl Lagerfeld, et c'est le cas car nous vous avons demandé de choisir les influences de Karl Lagerfeld dans la pop culture, et vous avez choisi comme livre, pour lui, Un été brûlant de Edward von Kesselring, signé Chanel de Loïc Prigent pour la série, Le chevalier à la rose de Strauss pour la chanson et Les dames du bois de Boulogne de Robert Bresson pour le film culte. Si on mélange tout ça, ça nous donne ça.
J'étais sûr de vous retrouver.
Et là, il y a un volant légèrement en forme, mais pas foncé.
Vers la tête, je deviens fou. Je suis capable de n'importe quoi.
Mais j'adore faire ça.
Il n'y a pas d'amour, Hélène. Il n'y a que des preuves d'amour.
Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Voilà un petit condensé.
Ça lui aurait plu.
Express de Karl Lagerfeld. Bien, on va parler de Karl avec Le mystère Lagerfeld, votre livre, Laurent Alain Caron, dans la suite de Pop Pop Pop. Mais avant ça, écoutons une égérie du créateur, Vanessa Paradis, et ce morceau, Kiev. Vanessa Paradis, Kiev, cet extrait de son dernier album, Les Sources. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon Laurent Allen Caron, vous êtes l'auteur du livre Le Mystère Lagerfeld, édité chez Fayard. Vous pensez l'avoir percé ce mystère et si oui, êtes-vous soulagé?
Non, je ne l'ai pas du tout percé. Je suis un peu soulagé car je l'ai au moins peu posé, le mystère. Voilà, j'essaie de poser les choses pour essayer de les comprendre et d'essayer de voir quel homme se cachait derrière la légende. Donc voilà, poser les choses, essayer de voilà, tendre un fil depuis l'enfance jusqu'à aujourd'hui. Et puis voir que finalement bah, c'était quelqu'un de complexe et beaucoup, enfin, assez différent de l'image qu'on pouvait en avoir.
Parler de mystère à propos de Lagerfeld qui a toujours soigneusement brouillé les pistes et admettre le côté romanesque du personnage. Son amie Diane de Beauvau-Craon dit même « Personne ne veut savoir qui est Karl Lagerfeld ».
Oui.
Vous vouliez vraiment savoir et est-ce qu'on le saura vraiment?
Je pense qu'on ne saura jamais qui il était vraiment, mais c'est comme tout à chacun, on ne saura jamais qui on est vraiment. Il y a un mystère en chacun de nous, mais je pense qu'en Karl Lagerfeld, il était d'autant plus grand qu'il l'avait créé, qu'il en jouait, il jouait avec les journalistes, il aimait bien brouiller les pistes, c'était un peu sa passion finalement aussi, à côté des livres et des collections, parce que c'était un grand collectionneur. Et donc c'était un jeu, et j'ai un peu joué à ça justement, à essayer de suivre des fils qui tendaient et puis de me dire bah là ça marche pas, alors quelle est l'hypothèse pour essayer de comprendre qui il était. Mais je crois que j'ai un peu compris, et ce que j'ai compris c'est que c'était quelqu'un qui avait vécu, quoi, contrairement à ce qu'il disait, ce qu'on pouvait voir. Il avait vécu, il avait aimé, il avait souffert, et donc il se protégeait, il se blindait, en fait il ne cessait de se blinder, Karl Lagerfeld.
Les origines allemandes, sans doute. Vous n'avez pas voulu faire un livre avec lui, mais sur lui, ne pas montrer son point de vue, mais avoir un contre-champ. Le livre est sorti le 6 février, soit une dizaine de jours avant la mort du Kaiser. Vous savez s'il l'a lu, s'il a eu vent de votre projet?
Non, je ne sais pas du tout.
D'une manière générale, comment il accueillait les travaux journalistiques faits sur lui, les enquêtes?
C'était pas simple.
Vous voyez ça d'un bon œil ou pas?
Pardonnez-moi.
Il voyait ça d'un bon œil?
Non. En fait, il n'aimait pas qu'on aille fouiller dans son passé. Il préférait maîtriser la légende. Donc, dès qu'il y avait quelqu'un qui essayait finalement de la déconstruire ou d'aller voir un peu de plus près comment les choses étaient, c'était compliqué pour lui à gérer, je pense. Et donc, c'est pour ça que essayer d'y accéder, c'était très compliqué. Et ça a été compliqué. Et ça a été aussi compliqué avec tous les gens que j'ai essayé d'interviewer qui un peu se donnaient le mot pour ne pas répondre. Donc moi, les gens que j'ai interrogés ont accepté de répondre et je les en remercie. C'est des gens, voilà, qui ont vu Karl au plus près, mais qui étaient un peu, voilà, avec une sorte de distance qui leur permettait de parler.
Alors comment êtes-vous sûr que la trentaine de personnes que vous avez interrogées pour les besoins du livre ont retranscrit la réalité et pas la légende que Karl lui-même avait essayé d'imprimer?
Justement, grâce à cette distance-là, c'est un peu comme dans Citizen Kane, vous savez, quand on essaie de reconstituer le puzzle en interrogeant les proches, ce n'est qu'un puzzle, ce n'est que mon puzzle, ce n'est qu'une esquisse de portrait, après la vérité, évidemment, je la détiens pas, et je pense que personne ne la détiendra jamais sur Karl Lagerfeld.
Mais c'est le portrait que vous avez fait de quelqu'un qui vous touche.
Oui.
Pourquoi est-ce que vous aimez Lagerfeld?
Ce qui me fascine chez lui, c'est ce côté énigmatique, c'est-à-dire que c'est pour ça que ça s'appelle le mystère Lagerfeld, c'est parce que c'est un mystère et que je trouve ça fascinant, la manière dont on peut se construire à un moment donné. C'est l'idée du masque, c'est quand à un moment donné on endosse un masque et comment on le maintient aussi longtemps, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans une époque où on sait tout sur tout le monde avec Instagram et tout, lui, il parvenait à maîtriser sa communication comme personne, en fait, et c'est ça qui était fascinant.
Vous avez eu le témoignage de Choupette?
Absolument. Non, pas du tout. J'ai eu quelques cris et quelques miaulements.
Et attendez, une question que je me pose, moi, qui sont les héritiers de Choupette quand la malheureuse Choupette va elle-même passer l'arme à gauche?
Alors, c'est une vraie question, Antoine, et je ne sais pas. Je sais qu'il y a une femme probablement charmante qui s'appelle Françoise et qui s'occupe de Choupette, là, aujourd'hui. Après,
Choupette étant donc un chat, hein, je le signale quand même, une chatte.
Voilà, exactement. On ne sait pas.
Comment ça, on ne sait
pas? Enfin, on ne sait pas
ce qui se passera. Non.
Si, on sait, c'est une chatte, on ne sait pas qui va s'occuper de l'argent dont elle dispose.
D'accord, j'ai compris.
Le livre retrace la vie du créateur depuis son enfance, une époque dans laquelle le jeune Karl Lagerfeld va à l'école non pas en uniforme, mais avec une veste en tweed et une cravate. Il ne voit ses camarades que comme des assistants, hein, pour faire tout ce qu'il rebute, comme par exemple nettoyer sa bicyclette. Un Karl Lagerfeld qui donne l'étrange impression, même minot, de jamais avoir été vraiment enfant. Est-ce que c'est aussi la sensation que vous avez eue?
Ah oui.
Est-ce que c'était le cas?
Oui, il disait, il détestait être un enfant, il disait « je suis un petit adulte ». C'était ça qui lui importait, c'était de vivre parmi les grands. Et il s'imaginait déjà à 10 ans vivre à Paris dans des fastes avec des perruques comme les gens au XVIIIe siècle. C'était ça dans sa tête. Donc très tôt, oui, je ne suis pas un enfant, je suis un adulte.
C'est très particulier de la notion d'adulte quand même.
Oui, oui, c'est ça, c'est le niveau juste un peu au-dessus.
Et un enfant surdoué parlant déjà plusieurs langues.
Trois langues, je crois, dès 6 ans. l'allemand, le français, l'anglais, absolument incroyable. Un jour, il voit Béatrix de Balzac dans la bibliothèque de sa mère. Il lui dit « Je voudrais lire le livre ». Elle lui dit « Tu n'as qu'à apprendre le français ». Et il a appris le français. Voilà, c'est ce qu'il raconte.
Et il a lu le livre.
Une mère très aimable, comme on le découvre dans le livre. On apprend aussi dans votre livre que Karl s'est essayé au piano, mais qu'un jour, sa mère, justement, lui a dit « Arrête, ça fait du bruit, dessine, au moins ce sera silencieux ». Sans sa mère, qui avait donc décidément l'air sympa, pas de pape de la mode à votre avis ?
Je pense que sa mère est déterminante en effet dans la construction de Karl Lagerfeld. Elle l'a endurci et elle lui a permis d'affronter la réalité avec des armes très particulières, c'est-à-dire une dureté qu'il s'est... qu'il a emporté de cette Allemagne-là quand il arrive à Paris en 1952. Il arrive avec ça, il arrive avec une carapace. Et ça va l'aider, je pense, à affronter et surtout à durer, parce qu'en fait, il réussit pas tout de suite, Karl Lagerfeld. Il faut attendre de longues années avant que... C'est les années 2000, finalement, où il explose. Et pendant toutes ces années, il va voir son ami, par exemple, Yves Saint-Laurent, qui, lui, va cartonner assez vite. Et lui aussi, ce qui m'intéressait chez lui, c'était cette espèce d'attente du succès. C'est-à-dire qu'elle est très progressive, en fait. Elle arrive progressivement. Et donc voilà, je pense que c'est cette mère, oui. Et sa disparition est terrible pour lui. C'est-à-dire que quand elle disparaît, c'est vraiment la fin d'un monde, c'est la fin de quelque chose. Il n'assiste pas à son enterrement. Il y a une fin comme ça. Il dit j'arrache les pages. Et la mort de sa mère, la manière pour lui de le gérer, c'était d'arracher la page, de plus jamais y penser.
Mais précisément parce que c'est elle qui lui a appris à ne pas s'apesantir sur le passé.
Exactement.
Avec la mort de son père est quand même
voilà,
très frappant.
En fait, il apprend la mort de son père 3 semaines après la mort de son père. Et par sa mère qui lui dit mais ça ne sert à rien que tu saches. Et de toute façon, ça ne sert à rien d'aller aux enterrements. Voilà. Et on peut lire aussi aujourd'hui, à l'aune de ça, la manière dont les choses se sont passées pour lui, cette disparition progressive. Plutôt belle, raccord avec le personnage, et puis l'absence de cérémonie voulue par lui, et voilà, une sorte de disparition.
Pas de trace. À la fin de sa vie, Karl Lagerfeld dessinait 14 collections par an, et déjà dans votre documentaire Un jour un destin, vous montriez cette facette avec une interview de 1970 dans laquelle on demandait au créateur pour qui il travaillait.
Pour presque une vingtaine d'affaires différentes, de toutes sortes, puisque je fais aussi bien les vêtements et les choses pour femmes, pour hommes et pour les enfants. Et dans plusieurs pays. Et en général, je ne fais jamais deux fois la même chose. Ça veut dire, je fais une collection de robes chères, une collection de robes bon marché, des pulls au vert, des maillots de bain. Mais je ne fais jamais, même dans un autre pays, deux fois la même chose. Parce que le marché européen est finalement beaucoup trop petit pour ça. Et ça s'est recoupé parce que finalement, on croit par saison à une mode et pas à 10 modes.
Ne serait-ce pas la définition exacte de ce qu'on appelle un workaholic ?
Mais oui, complètement. En fait, ça lui permettait d'être libre. Il voulait ne pas avoir de patron, il voulait travailler pour... Il était freelance, en fait, avant l'heure. Donc, il travaillait pour plein de marques. Et c'était, une manière d'être libre, d'être indépendant. En plus, ce qui était génial, c'est qu'il arrivait à chaque fois à se fondre, c'était un caméléon, dans l'identité des marques et à recréer, à les puiser dans l'ADN de la marque et recréer quelque chose de totalement nouveau à partir de l'ADN. Donc c'était vraiment, vraiment génial de voir à quel point il pouvait s'effacer derrière la marque. Et pendant longtemps, il n'y a pas eu le nom de Karl Lagerfeld au-dessus des collections qu'il dessinait.
Également évoqué dans votre livre, Laurent, sa relation avec le dandy Jacques de Bacher, Lagerfeld qui vivra par procuration les nuits follement trash de son compagnon.
Les gens pensent que je travaille pas, mais je travaille. J'inspire Karl. Je l'ai fait réaliser en 12 teintes différentes. Tu l'aimes ? Ce soir, je le porte en beige.
Avec Karl ?
Bien sûr.
Jacques de Bacher dans le Saint-Laurent de Bertrand Bonello, interprété par Louis Garrel. Il représentait quoi pour le créateur, ce personnage de Bacher ?
Alors, c'est rigolo parce que Victoire Dutrelot, la muse d'Yves Saint-Laurent, me dit que, donc dans les années 60, ils étaient amis, elle me dit Karl recherchait son double. Et en fait, c'est son exact...
C'est intéressant, votre lapsus.
Bien sûr. C'est son exact opposé qu'il va trouver, parce que Jacques de Bacher, c'est l'exact opposé de Karl. C'est-à-dire qu'il vit, il se drogue, tout ce que Karl ne fait pas. Karl Lagerfeld dira, j'ai passé les années 70 derrière une vitre, c'est-à-dire qu'il n'a rien vu. Enfin, en tout cas, voilà, il ne pouvait pas accéder, finalement, à son désir, presque. Mm-hmm. Son désir, c'était Jacques. Jacques faisait tout ce que lui s'interdisait de faire, c'est-à-dire tout, c'est-à-dire la drogue, les hommes, tout. Et il lui racontait, en effet, les choses le matin, après ses nuits de débauche, il lui racontait. Et Karl Lagerfeld vivait par procuration ça. Donc, je trouvais ça aussi fascinant. Mm-hmm.
Dans votre livre, son ami d'adolescence, Francis Weber, raconte, je cite, qu'avant d'aller se coucher, Carl se coiffait soigneusement et s'habillait le plus joliment possible au cas où il mourrait la nuit pour qu'on le retrouve digne. Fin de citation. Même ces détails-là, il avait choisi de les régler avant. Tout était millimétré.
Oui, c'est ça. Il fallait toujours être digne pour lui. Il fallait être présentable si la mort se présentait. Et c'est ce que je raconte aussi. Quand il arrive à Paris, une des premières choses qu'il fait, c'est de s'habiller bien, d'aller chez dans tous les couturiers dont il a entendu parler en Allemagne, pour être présentable, pour accueillir le destin.
Savez-vous s'il est parti digne ?
Je ne sais pas s'il est parti digne. Mmh. Il y a un grand, grand secret, encore une fois, sur la manière dont les choses se sont faites. On a eu 2-3 échos quand même, et je crois, en tout cas j'espère que oui, que ses volontés ont été respectées. Ouais.
Quelle trace va-t-il laisser dans la mode ?
Je pense que ce qu'il va laisser, c'est lui, c'est-à-dire c'est le personnage qu'il a créé, une silhouette, une caricature presque. En fait, c'est 2 carreaux noirs, les lunettes et une queue de cheval. Mm-hmm. Je crois que c'est vraiment ça, c'est un personnage, c'est une icône. C'est ça qui restera de lui. Mm-hmm.
Plus que ses créations ?
Plus que ses créations, parce que ses créations, finalement, c'était les marques. C'est-à-dire qu'il a eu l'humilité de se glisser dans la peau, comme un comédien, comme un acteur, des marques pour en restituer la quintessence ou la substantifique moelle. Et voilà, et je pense que ce qui restera vraiment de lui, oui, c'est ça, c'est son personnage.
Le mystère Lagerfeld s'est édité chez Fayard. Laurent, Alain Caron, vous restez avec nous, on va continuer à parler de mode. Est-ce que vous savez faire ça ?
Non, vous voulez que j'essaye ?
Bah évidemment.
Vous faites avec le pouce ?
Oui, non, avec l'index.
Avec l'index ? Mais j'ai fait il y a très longtemps. Non, c'est pourri.
C'est
pourri.
C'est pas mal, c'est un premier essai. Vous inquiétez pas, c'est juste pour lancer les pop news.
Un nouveau titre annonçant un nouvel album pour les Australiens au nom de groupe Zinzin comme il faut, King Gizzard and the Lizard Wizard, groupe psyché survitaminé, bah si, 13 albums en 7 ans, c'est un peu de l'hyperactivité. Le 14e arrive précédé par ce titre Fishing for the Fishes. Fishing for the Fishes, c'est également le titre de l'album de King Gizzard and the Lizard Wizard et ça sortira le 26 avril.
Nick Nolte et Matt Dillon en père et fils devant la caméra de Till Schweiger, c'est dans du miel plein la tête. Enfin du miel, une maladie qui fait perdre la tête au paternel, accueilli par son rejeton qui voit bien qu'il ne peut plus vivre en toute autonomie. Extrait.
Yeah, what's up? I love you. That's the first time you've ever told me that. Did I ever tell you how much I love you? Don't take it personally, but if you have, I've forgotten. I'm no good anymore.
Non, je ne pleure pas, j'ai de l'allergie. Du miel plein la tête, ce sera le 20 mars au cinéma.
Scandale, copyright et grunge, ceci n'est pas un camoulox, mais le résumé de l'affaire qui oppose Marc Jacobs aux ayants droit de Nirvana, ces derniers accusant le créateur de s'être un peu trop inspiré du smiley chelou, avec les yeux en croix et le tirage de langue du groupe de Kurt Cobain, un logo passé à la postérité, et que Marc Jacobs a fait figurer sur un t-shirt, un sweat et une paire de chaussettes de sa Redux Grunge Collection, sortie en novembre. Jacobs plaide la réinterprétation, les avocats de Nirvana ne l'entendent pas comme ça, affaire à suivre.
France Inter. On peut pas ? Antoine Decaune.
Nick Nolte.
Oui, c'est moi. Nick Nolte, exactement. Merci, Charline. Tiens, j'en ajoute une de news. Message de Laurent Bloch sur Twitter. Je la cite, de point ouvrir les guillemets. Laurence Bloch, oui. Ils sont jeunes, ils donnent tout, ils ont une énergie du diable et un talent d'enfer. Emoji, guitare, cœur, guitare, emoji, cœur. Ce sont les Hatfalls. Ils sont sur Hat France Inter et on lâche tout ce soir pour en profiter et en avoir plein les oreilles dès 20h. Emoji, micro, guitare, emoji.
Fin de citation.
Sans transition, avant de parler d'Alexander McQueen avec le doc qui lui est consacré, écoutons le morceau Téléphone signé Lady Gaga et Beyoncé. Et je vous invite à aller voir le clip avec des costumes signés Alexander McQueen.
Hello, hello, baby, you called, I can't hear a thing. I have got no service in the club, you say, say. What did you say? Oh, you're breaking up on me. Sorry, I cannot hear you. I'm kinda busy. Sorry, I cannot hear you. I'm kinda busy. Just a second, it's my favorite song. They're gone.
Queen's Central Station. Tonight I'm not taking no calls, cause I'll be dancing.
Téléphone dans Pop 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 sur France Inter. C'est un morceau signé Lady Gaga featuring Beyoncé. Lady Gaga qui avait rendu hommage au couturier en 2010, Alexander McQueen, lors des Brit Awards.
This is for Alexander McQueen.
Alexander McQueen, dont nous allons parler maintenant avec les réalisateurs du documentaire consacré aux créateurs, Yann Bonnot et Peter Etegui.
Bonjour.
C'est comme ça qu'on
bonjour,
prononce
bonsoir. Oui.
Bien. Je m'en suis bien sorti, Charline.
Parfait.
Bonjour, messieurs. McQueen, c'est votre documentaire. Ça sort demain au cinéma et c'est un vibrant hommage en même temps qu'un portrait captivant de ce visionnaire aussi tourmenté qu'inspiré. Bande annonce.
I wasn't very good at school. I was always drawing clothes.
He was a very happy child.
He was passionate.
When Lee was 17, he said, I'll make you a couple of skirts.
He was drawing from all of these influences.
Jack the Ripper stalks his victims.
In the early years, Lee had seen violent things.
The darkness created genius.
Nobody could create emotions like McQueen.
Personne ne crée des émotions comme McQueen. Alors dans McQueen, vous avez voulu savoir comment ce jeune homme timide, issu de la classe ouvrière anglaise, sans relation, était devenu Alexander McQueen, grâce à des témoignages exclusifs et des images inédites. Parmi ces images inédites, une vidéo du créateur jusqu'alors perdue. Comment avez-vous fait pour commencer, pour obtenir ces images ?
On a contacté des gens proches, on a créé une liste au départ du projet de des gens qu'on voulait contacter, et plus en fait les gens acceptaient de nous parler, plus en fait on pouvait poser des questions et demander des choses un peu plus spéciales et spécifiques comme des extraits ou des images d'archives ou des photos.
C'est-à-dire que d'abord ils étaient prudents dans un premier temps, et ensuite en voyant votre
ouais,
bonne
y avait
foi et
à écouter un peu ce qui était dit, ce que vous disiez avant, il y a une certaine réticence de parler dans le monde dans la mode.
Mais c'est-à-dire que vous êtes même allé jusqu'à dire personne n'osait se souvenir publiquement de McQueen. À quoi c'était lié?
Peter, jetez-vous à l'eau.
Je pense qu'il y a toujours le danger de faire quelque chose un peu sensationnaliste. Je suis coincé après trois syllabes, donc ça c'est très difficile pour moi. Et aussi, on a découvert qu'il y avait une espèce de vœu de silence. Personne voulait parler de lui, mais... Justement, nous étions très inspirés par son art et par ce qu'il a dit, que si vous voulez me connaître, il faut regarder mon travail. Donc c'est ça ce que nous avons fait.
Alors il y a un point commun, si on doit en trouver un, enfin, vous allez me dire c'est peut-être propre à tous les génies, mais entre le Lagerfeld de votre livre, Laurent, et le McQueen de votre documentaire, messieurs, c'est leur mode de fonctionnement, à la fois très très clanique, étrangement doublé d'une sensation d'immense solitude.
Ouais, je pense que c'est très bien dit. Ouais, je pense
que
c'est
tous les trois opinent. Ouais. Je traduis puisque nous sommes à la radio. Les trois invités opinent en même temps.
Nous secouons la tête.
Des chiens sur une plage arrière.
Voiture, tout à fait. Non, je suis tout à fait d'accord. C'est, je pense que vous en parliez avant que le travail est tellement intense, il y a tellement de collections, etc. Donc de perdre une personne qui fait partie, une personne clé de partie de son équipe, c'est trop difficile de recommencer toute cette insertion et cette connivence qu'on a atteint après avoir travaillé très longtemps avec les gens. Mais ce qui est très intéressant d'entendre Karl Lagerfeld qui, lui, ne prenait pas de drogue, etc. McQueen, c'était un peu l'opposé. Lui, c'était rock and roll, sex, drug and rock and roll.
Vous dites que vous avez été frappé par quelque chose de l'ordre de la tragédie grecque chez Alexander McQueen. Alors sans doute un homme qui ne peut pas échapper à son destin. Et aussi, ça, j'imagine que ça a influé sur la construction de votre documentaire en 5 actes.
Oui, tout à fait.
Ça va jusque-là ?
Tout à fait. Parce qu'on voit dans sa vie, il y a vraiment la montée, l'ascension au sommet. Et après, c'est vraiment la chute tragique. Mais justement, on pensait que lui-même, il portait la graine de sa
destruction.
Oui, un peu. C'était pas vraiment les circonstances extérieures. Oui, un peu. Mais c'était plutôt ce qu'il a expérimenté quand il était petit.
Donc il ne pouvait pas échapper à ce destin,
non,
d'une certaine manière.
Je pense que...
Non, et du fait que quand nous avons commencé le film, Alexander McQueen était déjà décédé. Donc c'était un peu le premier public au qui vous parlerez, qui seront peut-être des gens passionnés de McQueen ou de la mode, ils vont savoir la fin du film. Donc en fait, au lieu d'éviter de prendre le côté de la tragédie grecque et de l'utiliser comme une force, on s'est dit on va faire ça. Et en fait, l'idée c'était vraiment de créer un personnage, un portrait très, très intime et intense, et on rigole beaucoup. Ce qui est très agréable quand vous êtes dans une salle, dans le film, c'est qu'il y a des moments très, beaucoup d'humour et beaucoup de folie. Et après, quand le sombre et le noir commencent à rentrer, ben, ça vous choque encore plus parce que vous aviez pratiquement oublié que la personne allait arriver à sa fin.
Vous savez, moi qui ne connaissais pas dans le détail la vie d'Alexander McQueen, j'ai eu l'impression, en regardant votre doc, de voir par moments le Mozart de Milos Forman, interprété par Tom Hulce, c'est-à-dire un personnage absolument génial, incontrôlable. Vous partagez ce sentiment ?
Absolument. En fait, le vieil de commencer à travailler sur le film, j'ai vu une nouvelle production de Amadeus à Londres, et j'étais vraiment frappé par parce que on trouve dans cette pièce, on trouve un Mozart. Sale gosse.
Ouais. Un
punk. Mais avec un don exquis. Mais il a travaillé pour ce don à McQueen. Il a vraiment pris son temps à maîtriser chaque facette de son métier.
On voit dans le documentaire, hein, vous le disiez, un McQueen à la fois inventif, exubérant dans ses créations, mais presque timide, assez humble et plutôt assez terre à terre dans sa gestion. Est-ce que c'est cet aspect très contrasté du personnage qui vous a attiré plus que son héritage, peut-être ?
Non, je pense qu'il y a les deux aspects. L'héritage est énorme et il est mort à 40 ans, et dans l'espace de moins de 20 ans, tout ce qu'il a créé, c'est quand si vous alliez au V&A ou à la Met Gallery à New York, vous baladez dans le musée, c'est incroyable tout ce qu'il avait réussi à créer en très peu de temps. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est cet aspect en tant qu'étranger, ça fait 22 ans que j'habite à Londres, c'est cet aspect de working class anglaise qui est d'une certaine manière très généreuse, très très stoïque et très travailleuse, mais en même temps qui peut être complètement exubérante, un peu vulgaire de temps en temps, et une certaine agressivité. J'aime beaucoup ça. C'est pas forcément le côté anglais que l'étranger connaît, mais c'est un côté anglais que moi j'apprécie beaucoup.
Laurent, vous pensez qu'il y a un mystère McQueen ?
Ah ouais, moi j'ai très envie de voir le film. Il paraît que c'est génial.
C'est génial. C'est
notamment la musique, puisque c'est la musique de Michael Nyman, je crois.
Ouais,
c'est ça. Et ça donne très envie. Est-ce qu'il y a un mystère ? Moi j'ai envie de savoir plein de trucs. Enfin, comment, pourquoi la chute ? Qu'est-ce qui a déclenché ça ? Vous parliez d'un quelque chose qui portait en lui quelque part, comme dans une tragédie, c'est génial. Et justement, j'ai envie de vous poser la question, est-ce qu'il y a un mystère enfin, pardon Antoine.
C'est beaucoup mieux cette question.
Enfin une question.
On est au chômage. Je pense que on n'a pas essayé de faire un scoop. Tu vois, c'est vraiment, on a vraiment réfléchi. Il y avait beaucoup d'éléments qui étaient déjà sortis dans le public et on voulait vraiment faire. On a pris le travail comme des réalisateurs. Donc, comme toi, tu parlais du livre, on n'a aucune réponse. On a juste voulu mettre en fait plein d'ingrédients qui ont peut-être causé la chute et l'accélération de la chute. Mais ce qui est vrai, c'est que ce soit Karl Lagerfeld ou Lee, la pression du monde de la mode, la demande la consommation de nos jours, etc. Et qui arrive dans beaucoup de choses. C'est aussi dans la musique, c'est la même chose. Quand vous avez beaucoup de succès dans le cinéma, vous tournez beaucoup. Et ça fatigue, c'est émotionnellement, physiquement.
Alors, il y a le personnage, il y a son travail. Et ce qui est aussi très intéressant dans le documentaire, c'est la période à laquelle s'est associé tout ce mouvement Cool Britannia, avec des personnages complètement insensés. Associé à cette effervescence, un personnage très important dans la vie de Lee Alexander McQueen, la journaliste de mode, muse Isabella Blow, qui jouera un rôle déterminant dans sa carrière et dans la vie du créateur. On parlait avec Antoine de personnages qui sont presque comme des personnages de fiction. Celle-là en fait partie.
Oui, oui, tout à fait. Comme vous avez dit, c'était une muse, c'était un type de mentor. Mm-hmm. C'était aussi le plus grand fan de McQueen.
Ouais. Mm-hmm.
Était obsessionné par ses vêtements.
C'était un peu pratiquement comme une influenceur avant les influenceurs.
Exactement, ouais.
C'est-à-dire qu'il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas les réseaux sociaux, mais c'était vraiment... elle s'habillait toujours de jeunes créateurs. Et ici, il n'y avait pas que McQueen, elle adorait énormément de gens. Et en fait, elle, ce qu'elle trouvait intéressant, c'était le nouveau talent. Et elle avait une grande gueule, donc elle aimait bien en parler, elle aimait bien championner tous ces gens-là.
Le prisme de votre doc, c'est McQueen à travers son travail. Comment s'en sort-on avec un homme qui déclarait « Si tu veux me connaître, regarde mon travail. Si tu ne veux pas me connaître, regarde mon travail.
Pour moi,
alors qu'est-ce qu'on en dit de cette question-là?
C'est excellent, mais il va répondre.
Ce que un truc que j'aime beaucoup aussi, il y a beaucoup de il y a une phrase que je vais butcher en la traduction. Il disait, moi j'aime habiller une femme pour que quand elle rentre dans une pièce remplie d'hommes, les hommes ne veulent pas, pardonnez mon français, la baiser, mais on perd peur d'elle. Mmh. Et je pense que quand on place ça dans les années 90, au début des années 90, avec les Me Too mouvements de nos jours, c'est que lui-même déjà à l'époque, il avait cette idée de vouloir protéger la femme, de lui donner une armure. Il avait vu de la violence contre sa sœur. Et c'est très intéressant et tout sa créativité était là-dedans, c'était se protéger son âme.
McQueen, c'est un documentaire remarquable qui sort demain sur les écrans, à ne rater sous aucun prétexte, que vous vous intéressiez d'ailleurs ou non à la mode.
C'est passionnant, c'est vraiment, sur l'époque, le personnage, le travail.
Bravo.
On n'est pas dans la mode, nous, donc c'était vraiment l'aspect réalisateur.
Ah, c'est pour ça.
Quelqu'un fantastique. Je ne suis pas bien habillé, c'est ça?
Mais j'ai rien dit, je ne me permettrais pas. Messieurs, il est l'heure pour moi de descendre à la cave, chercher le dernier vinyle de l'émission et j'y vais de ce pas. Mais qu'est-ce que c'est encore ce bordel là?
Bonjour. Vous avez votre carton d'invitation?
Un carton d'invitation? Bah attendez, pour aller dans ma cave, la cave de mon émission?
Oui, c'est la Fashion Week et il y a un défilé.
Bah non, j'ai pas de carton.
Alors non.
Non mais attendez, j'hallucine là, Charline. Enfin, le mec ferme ma trappe. Bon, bah comme je voulais jouer un petit fortops, bah je vais le jouer sur mon baladeur. Allez. Same Old Song des Four Tops dans Pop Pop Pop. Messieurs, une dernière question avant que nous nous quittions. Quand McQueen est décédé, Lagerfeld lui a rendu un hommage kaysérien en déclarant à l'AFP que son travail n'était jamais banal et en ajoutant « c'était un peu déshumanisé, qui sait, peut-être qu'à force de flirter avec la mort finit par vous attirer ». Laurent, cet hommage vous semble-t-il conforme aux élans lagerfeldiens?
Oui, j'ai lu ça aussi et ça m'a semblé marrant parce que oui, il n'aimait pas la mort, il avait peur de la mort, il avait peur de la maladie et ça ne m'étonne pas du tout qu'il ait dit ça.
Et Ian et Peter, l'homme décrit sommairement par Lagerfeld vous ressemble, enfin, ressemble-t-il à celui que vous avez étudié dans le documentaire?
J'espère que oui.
Non, mais par rapport à juste la petite phrase, très rapidement, il y a quelqu'un qui nous avait dit qu'en fait, Lee n'était pas attiré par la mort, il aimait le macabre et il s'en est inspiré. Mmh. Et après, les autres choses, faut pas faire le. Je veux pas, parce que j'ai beaucoup de respect pour Alexander McQueen, faut pas mélanger les deux, en fait, je dirais.
Bien.
Je suis pas d'accord avec le Kaiser.
Merci Laurent, Alain Caron. Le mystère Lagerfeld s'est édité chez Fayard. Et merci Yann Bonnot et Peter Etegui. McQueen, le film, sort demain. Tout ça étant chaudement recommandé par Pop Pop Pop. Merci d'ailleurs à l'équipe de Pop Pop Pop. Ghislain Fontanus à la réalisation, à la technique Elisabeth Collet, Aurélien Esvan, notre rédacteur en chef, Claire-Sophie Collet, Simon Restat, nos attachés de production, programmation musicale Djoubaka, Alice Delcourt, notre stagiaire, et Eric Oswald en videur. Demain dans Pop Pop Pop, elle...
Ces mots sous l'eau.
Kerenan sera avec nous ainsi que l'auteur du livre Girls Rock, Sophie Rosemont. Mais avant demain, si vous avez aimé l'émission, retrouvez-la sur franceinter.fr. Si vous êtes un Jones 3.0 ou un Yeval à pointe, suivez-nous. Ou plutôt, comme disent celles qui font des tutos mode sur YouTube.
Moi, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne si vous ne voulez pas louper mes vidéos. Je poste tous les lundis, les mercredis et les vendredis à 17h. Et voilà, moi, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Je vais vous faire d'énormes bisous. Je vais aller jouer avec ma fille et on se retrouvera très bientôt dans une prochaine vidéo.
Oui, bon, ça va. Merci. Et suivez-nous sur les internets, comme disent les milléniaux, 3615 pop 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 sur Instagram et Twitter.